Écriture, émission conçue et animée par Michel Bernard. Chers auditeurs, bonjour. Bonjour parce que les jours rallongent, 3-4 minutes par jour. Nous allons lentement vers le printemps, d'ailleurs, dans cette région, les premiers signes sont présents. Nous nous retrouvons pour la première fois en 2017 et nous allons nous retrouver trois fois en cette fin janvier, ce soir, lundi et mardi. Mardi, nous allons découvrir des facettes du Pays de Grasse historique. 43 communes avec Grasse. Connaissez-vous le Pays de Grasse historique? J'en doute, les traces sont de plus en plus rares. Je vous ferai découvrir ce Pays de Grasse historique et j'aurai avec moi, je pense, deux auteurs qui ont écrit sur leur ville, leur village, et nous parlerons largement du fait que dans ce Pays de Grasse historique, il y a non seulement du parfum, il y a des paysages, il y a des monuments historiques, il y a des auteurs, des écrivains, des artistes, bref, ce que l'on appelle l'Arcadie de retrouver, nous essaierons dans une émission de le mettre en valeur, de le rendre plus vivant. Lundi soir, ça sera Gaston Bachelard, l'autodidacte, le philosophe et l'homme si humain. Peut-être n'avez-vous jamais entendu parler de Gaston Bachelard. Eh bien, j'essaierai de vous le faire aimer, de vous le faire apprécier. Cet homme est mort au siècle dernier à 78 ans, en 1962. À 30 ans, il se marie, à 36 ans, il est veuf avec un enfant, une fille, Suzanne. Et cet homme va marquer beaucoup de personnes, beaucoup de générations. Il est à la fois philosophe, scientifique, c'est un personnage hors du commun, c'est un personnage que j'ai découvert très vite en reprenant mes études, j'essaierai de vous le faire aimer, et je serai accompagné de quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur Bachelard et qui vous le fera aimer dans sa dimension poétique. Mais ce soir, nous allons parler de la région PACA. Est-ce que nous connaissons la situation du livre dans cette région, des auteurs, des éditeurs, des libraires, des salons du livre et de toutes les activités qui gravitent autour de l'écrit et plus précisément autour du livre? Moi-même, je me suis interrogé et ma réponse a été, à l'évidence, c'est insuffisant. Alors je suis allé à Aix-en-Provence, à l'Agence régionale du livre, située à la Cité du livre, au cœur d'Aix-en-Provence, une ville au charme absolument varié et vraiment intense. Là, j'ai eu un entretien avec Claire Caston, qui est chargée des auteurs et des manifestations littéraires, et Olivier Pénamec, son nom vous l'indique tout de suite, il vient de Bretagne, il a trouvé cette région si belle qu'il a décidé d'y rester, et lui est chargé des éditeurs et des libraires. J'aurai l'occasion de redire merci à Claire et Olivier pour leur accueil et leur contribution. Vous allez voir que dans cet entretien que j'ai eu avec eux, nous allons pouvoir découvrir cet outil remarquable qui a été créé en 2003 pour tous les professionnels du secteur du livre, auteurs, éditeurs, libraires, bibliothèques, associations, réseaux et collectivités. Mais j'insiste, pour moi, l'Agence régionale du livre est bien plus qu'un outil pour les professionnels, c'est un outil pour nous, chacun, citoyen, pour découvrir le livre. Il y a un site remarquable que vous pouvez découvrir facilement, Agence régionale du livre, on vous le redira plusieurs fois dans l'émission, donc vous pouvez à tout moment aller voir, et en permanence, vous pouvez connaître les activités culturelles dans ce domaine qui se déroulent autour de votre maison, dans un horizon tout à fait maîtrisable, ou sur la région PACA. Alors, on peut être fier de ce qui se passe dans la région PACA, souvent on se pose la question, mais est-ce que le livre, la culture dans cette région sont vraiment mis en valeur? Eh bien, vous allez voir, vous allez écouter Claire, vous allez écouter Olivier, et nous avons dans cette région des choses absolument extraordinaires dont on peut être fier. Alors, ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas de cette région, je leur dis tout de suite, chaque région a une agence régionale du livre, mais pour ce soir, nous allons écouter Claire et Olivier, nous parler de la situation du livre dans la région PACA. Nous sommes à l'Agence régionale du livre, au cœur de la Cité du livre à Aix-en-Provence. Chers auditeurs, allez à Aix, allez à la Cité du livre, et sans doute vous connaissez peu ou pas du tout l'Agence régionale du livre, alors je vous invite à découvrir. Près de moi, deux personnes, Claire et Olivier. Elles vont se présenter, dire le secteur sur lequel elles agissent en permanence. Et je vais leur poser la première question. Quelle est l'origine et le fonctionnement de l'Agence régionale du livre?
Bonjour. Alors, l'Agence régionale du livre est une association qui est née en 2003 sur la volonté de l'État et de la région. Alors, l'État plutôt côté culture, donc direction régionale des affaires culturelles. Donc, on va dire qu'on est une association, loi 1901, parapublique, avec des missions arrêtées par nos tutelles, donc qui sont l'État et la région, sur quatre grands axes qui sont, alors, notre public avant tout, ce sont les professionnels du livre, l'ensemble de l'écosystème du livre, c'est-à-dire l'auteur, l'éditeur, le libraire, le bibliothécaire, mais aussi tous les organisateurs d'événements culturels et médiateurs du livre. Donc nos missions, on a une mission très très forte d'information et d'observation au travers donc information au travers d'un site internet qui a été entièrement renouvelé cette année et qui contient toutes les bases de données libres d'accès des professionnels du livre de la région au travers d'une newsletter au travers d'une web newsletter au travers d'un blog qui était avant une revue qui s'appelle Dazibao et qui s'est arrêtée l'année dernière et dont on ne sait pas encore d'ailleurs si elle va reprendre ou pas. Mais en tout cas, on trouve un certain nombre d'articles qui sont entièrement réalisés par l'équipe dans le Dazibao blog. Sur la vie du livre en région, mais aussi au-delà, sur des nouveaux rapports qui sortent, etc. On a tout ce site qui a aussi énormément de ressources techniques, puisqu'on a des services juridiques, des services en gestion, etc., et qu'on a un certain nombre de questions-réponses. Voilà pour la partie information. Observation, on est producteur ou coproducteur d'études sur la région ou sur l'interrégion, puisqu'on a une fédération qui s'appelle la Fédération interrégionale du livre et de la lecture, la FIL, et qui regroupe l'ensemble des agences en France. Donc on est des fois coproducteur avec la FIL d'études plus large, mais on est aussi producteur de documents qui peuvent aider aussi aux politiques publiques à prendre des décisions et aux professionnels à savoir un petit peu où ils en sont dans le secteur, comme les chiffres clés du livre, comme les financements publics du livre, etc., mais aussi des études sur la rémunération des auteurs, sur la librairie, voilà, pas mal d'études sur la question de la librairie, etc. Donc ça, c'est une fonction observation. On a une fonction formation et accompagnement professionnel. Alors formation, donc là, ce sera plutôt Olivier, donc mon collègue qui est à mes côtés et qui est chargé, lui, des éditeurs et des libraires, et moi, je ne l'ai pas dit, des auteurs et de la vie littéraire. Les formations, lui, il va mettre en place un programme de formation en direction. Alors formation professionnelle continue. En direction des libraires et des éditeurs, et moi, formation plutôt en direction des auteurs et des animateurs littéraires. Donc on a un programme de formation qui est disponible sur notre site, une newsletter spéciale qui est envoyée en début d'année, et ce programme de formation, on le compose, on n'est pas un gros organisme de formation, on a une quinzaine de formations par an pour à peu près, on va dire, une centaine d'acteurs qu'on va former, hein. Donc on est plutôt à l'écoute des professionnels, et notre programme de formation, il est plutôt fait en fonction des besoins qui nous remontent du terrain, parce qu'on est quand même assez proche du terrain. Ça, c'est pour la partie formation. Alors, les bibliothécaires ont fait peu de formation en direction des bibliothécaires parce qu'ils ont un organisme qui est le CNFPT, on rentre pas, voilà, dans les cadres. Mais par contre, il y a énormément de journées professionnelles avec notre chargée de mission Aurélie Giordano, qui est donc, elle, chargée de mission sur les bibliothèques et certains projets transversaux. Et là, c'est plus des échanges professionnels avec les bibliothécaires. L'accompagnement, ben, on est sur l'accompagnement individuel ou collectif des acteurs qui viennent nous voir en nous disant, ben voilà, j'ai un projet d'écriture, j'ai un projet, je veux reprendre une librairie, etc., etc. On a un certain nombre de services, l'intégralité de nos services sont gratuits, hein, on est un peu, je disais, du parapublic. Donc on a un service en gestion pour les libraires et les éditeurs, on a un service juridique gratuit pour l'ensemble des professionnels du livre, avec un avocat spécialisé, des rendez-vous téléphoniques. On a un service en fiscalité également pour les auteurs. Voilà, tous ces services. Donc là, on est sollicité, on prend des rendez-vous, on est mobile, on va sur l'ensemble des territoires. Notre territoire, c'est la région, donc on se déplace.
Alors finalement, Claire, 2003 est la création. Vous êtes 9 personnes et vous avez une richesse d'activités qui couvre tout ce que l'on peut imaginer, demander, solliciter autour du livre. Il y a pratiquement tout ici.
C'est-à-dire à l'Agence régionale du livre ou en région?
À l'Agence régionale du livre.
Alors, ouais, il y a tout sauf les financements. Enfin, les financements dans le sens où c'est important de le dire, on n'a pas de ligne budgétaire pour aider les acteurs. Mmh. Voilà, on peut les aider à éventuellement trouver des financements, monter des dossiers avec eux, que ce soit les auteurs, que ce soit les libraires, pour obtenir des financements qui existent sur des lignes budgétaires. Mais nous, on nous sollicite assez régulièrement pour ça. On n'a pas de ligne pour aider directement.
C'est effectivement un point très important, mais les gens qui veulent demander conseil, qui sollicitent quelque chose, peuvent venir vous voir et vous les écouter et vous les orienter.
Tout à fait.
Évidemment. Et c'est vrai qu'il y a les deux autres axes, hein, donc qui n'ont pas encore été présentés, qui sont des axes qui touchent en fait principalement les projets innovants et les projets collaboratifs. Et le quatrième axe, qui est un très grand prix littéraire des lycéens et apprentis de la région PACA, qui nous permet et qui permet à nos collègues Élise de Blaise et Marina Polas, qui s'en occupent, de faire vivre le livre et de faire vivre le livre d'une part auprès des bibliothécaires, d'autre part auprès des libraires et d'autre part auprès des jeunes et des personnes en apprentissage. Et ça, c'est un point qui est très très important au niveau de l'agence, c'est d'accompagner le développement de la lecture, et ce prix en est l'un des grands levier et un point qui est vraiment phare dans nos activités. Et il y a aussi toute cette réflexion qu'on essaye de mener avec eux, parce qu'on se veut aussi, entre guillemets, être un laboratoire d'idées. Vous savez, on travaille avec des acteurs qui ont une rentabilité et une économie qui est très particulière, et notre objectif est de pouvoir être aussi ce laboratoire pour eux d'expérience, d'innovation et d'expérimentation. Et c'est vrai que pour ça, on va utiliser des professionnels, proposer aux professionnels de venir réfléchir avec nous sur quel va être le devenir du livre. Qu'est-ce que le numérique inclut aujourd'hui dans l'offre littéraire? Qu'est-ce qu'il inclut pour les bibliothèques? Est-ce que le lieu doit se maintenir de la même manière ou pas? Et surtout, comment inclure le numérique dans une offre éditoriale, dans une offre de librairie? Et comment le numérique peut aussi servir les auteurs? Donc c'est vrai qu'on a aussi cette mission qui se veut toujours transversale, de réfléchir en fonction de chaque public et de chaque acteur de cette chaîne du livre, à la fois au niveau donc de ces projets innovants et surtout au niveau du développement de la lecture.
Alors Olivier, on va rester avec vous avant de revenir à Claire. Vous vous occupez, entre autres, des éditeurs et des libraires. Alors, les éditeurs, il y en a combien dans cette région? Comment ça se présente?
Alors, si on prend vraiment toutes les natures d'éditeurs, à savoir les associations spécialisées, des personnes qui, en soi, ne vont publier qu'un, deux ou trois livres dans toute l'existence de leur association, on va retrouver à peu près 200 acteurs. Sur ces 200 acteurs, on va comptabiliser à peu près 100 à 120 structures qui vont avoir une publication éditoriale annuelle. Mais évidemment, il y a une grande diversité de structures. On compte dans la région des acteurs comme Actes Sud, des acteurs comme Philippe Piquier, des acteurs comme les éditions de l'Aube, qui ont une résonance nationale évidente. À Gaune également, hein, qui est un éditeur qui se trouve à Marseille et qui a aussi, je dirais, cette force un peu nationale et de diffusion nationale. Et on va retrouver d'autres structures éditoriales qui, elles, sont dans des franges, on va dire, un peu intermédiaires, mais qui sont des acteurs très importants pour nous, qui sont des éditeurs jeunesse représentés par le réseau Jeudi PACA, les membres des éditeurs des structures type Éditeurs du Sud également, qui ont un grand travail sur la photographie, je pense au Bec en l'air, je pense entre autres aussi à Parenthèse, qui est un éditeur très connu au niveau national et sur la scène de l'architecture. Et on va retrouver un peu des ovnis, par exemple. Bon, on travaille très peu avec eux, mais on peut dire que Panini, par exemple, Panini France, se trouve en région PACA. Alors c'est un acteur avec qui on ne travaille pas du tout, mais il représente représente aussi ce type d'acteur. Et on va avoir dans le monde de la musique, par exemple, un auteur et un éditeur très important qui sont les éditions Le Mot et le Reste, qui ont aussi cette surface nationale. Et derrière, ces locomotives, un peu pour la région, on va retrouver des éditeurs spécialisés aussi bien dans la littérature et la traduction coréenne. Je pense aux éditions Decrescenzo, qui sont montées il y a 2 ans et qui commencent à monter en renommée. On a aussi une grande spécificité autour du bien-être, de la spiritualité. On peut penser à des éditeurs comme Le Souffle d'Or, à des éditeurs comme Adverbum, comme Quintessence, entre autres, qui sont aussi des acteurs reconnus nationalement et qui s'implantent sur ce territoire. L'économie des structures éditoriales au niveau régional, c'est à peu près 97 millions d'euros pour 510 emplois. Et si on prend à l'inverse maintenant les libraires, on a aussi des libraires qui, comme dans toute région, vont être des libraires de centre-ville avec une force et une histoire qui fait qu'ils sont très présents, avec des chiffres d'affaires importants. Et on va avoir une offre de librairie qui est parsemée sur toute la région, aussi bien dans les Hautes-Alpes que dans le département du 04, par exemple, les Alpes de Haute-Provence, où là, on va retrouver des libraires qui sont là pour faire vivre un territoire. Je pense à Barcelonnette, à la librairie Imaginée, par exemple, qui sont là pour faire vivre le territoire et amener une offre de livres sur ce territoire. On pourrait citer Route du Sud, à la Rhine-Monteglin, par exemple, qui sont des libraires dont on entend très peu parler, mais qui ont ce rôle de transmission et ce rôle de passeur de livres et qu'on va retrouver effectivement partout sur nos territoires. Quelques chiffres un peu sur ces libraires. On retrouve globalement les mêmes données que pour les éditeurs, à peu près 95 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 567 emplois. Donc si on prend cette partie plus économique, édition et librairie, vous voyez qu'on est quasiment à 200 millions d'euros de chiffre d'affaires pour presque 1100 emplois. Donc c'est un secteur économique qui est fort, qui existe et qui est très loin d'être négligeable et qui permet à chacun d'obtenir une offre culturelle, j'ai envie de dire, une proximité sur ce territoire. Tout comme les bibliothèques, hein. C'est vrai qu'il y a ce grand projet depuis très longtemps d'avoir au moins à au moins 40 km de chez soi, un lieu où on puisse avoir accès aux livres. Et le travail qu'on essaye de mener avec ces libraires, avec les éditeurs, avec les auteurs, avec les manifestations littéraires et toute cette chaîne du livre, c'est de faire en sorte que chacun puisse avoir accès aux livres et de permettre que, où qu'on se trouve dans cette région qui est très vaste, du 05 aux Alpes-Maritimes, on puisse et que chacun puisse trouver un livre à proximité.
Voilà, avant de retrouver Claire et Olivier pour la poursuite de cet entretien, une information. Demain, samedi 28 janvier, je vous invite à assister à une conférence qui aura lieu au Théâtre Alexandre III à Cannes sur le thème « Malraux et la couture, destin croisé ». Une très très belle conférence, accès gratuit. Voilà, une belle initiative avec des intervenants de qualité. À tout à l'heure après les informations pour la suite de cet entretien. Continuons sans tarder la découverte de l'Agence régionale du livre avec Claire et Olivier. Je reviens vers vous, Claire. Vous êtes responsable des relations avec les auteurs et puis des différentes animations autour du livre. Comment se présente la situation dans la région PACA, tant pour les auteurs que pour ces manifestations ?
Alors, on est une région avec une forte implantation des auteurs. On a à peu près 680 auteurs de l'écrit dans la région, ce qui est quand même une forte implantation. Alors, nous, on entend auteurs. D'abord, c'est publié à compte d'éditeur. Donc, on ne recense que les auteurs publiés à compte d'éditeur, même s'il n'y a eu qu'un livre dans la carrière de l'auteur, et qui habitent réellement la région, c'est-à-dire pas uniquement ceux qui ont une maison secondaire sur la Côte d'Azur ou dans les Alpes-Maritimes, ou dans le Luberon, par exemple. Oui. Dans le Luberon, je pensais. Donc là, on en a 680, et c'est pareil pour les éditeurs et les libraires, c'est-à-dire qu'on a toute taille de de bibliographie, on va dire. Voilà. Donc on a une richesse de la présence des auteurs, dont les organisateurs de manifestations littéraires, salons du livre, rencontres en librairie, enfin peu importe la taille de la manifestation elle-même, se servent énormément de cette masse d'auteurs de qualité que nous avons en région. Donc ils sont tous recensés sur notre site, enfin en tout cas tous ceux qu'on connaît sont recensés sur notre site. On a une majorité d'écrivains romans, littérature, on va dire. On a une forte présence de poètes et une forte présence également d'auteurs de polar. Et puis à peu près 17 à 20% d'auteurs illustrateurs. On a une quantité assez importante d'auteurs illustrateurs, principalement dans le département des Bouches-du-Rhône, mais aussi ailleurs. Je pense qu'à un moment donné, la pression immobilière en France était très faible, étant très faible sur Marseille. Il y a un certain nombre de collectifs d'auteurs qui sont sortis de grandes écoles, comme par exemple les Arts Déco de Strasbourg, qui sont venus s'implanter dans cette ville parce qu'ils pouvaient avoir des ateliers en centre-ville à moindre prix. Donc on a des auteurs illustrateurs et des dessinateurs de bandes dessinées en grand nombre et de grande qualité dans la région. Voilà, en ce qui concerne un peu les auteurs, il faut savoir qu'un auteur il vit pas de sa plume, hein. Il y a 70% des auteurs en France qui ont un premier métier et ce chiffre-là se vérifie assez en région. On a quand même entre 25 et 30% des auteurs qui vivent de leur plume petitement, dont un certain nombre complète assez régulièrement avec le RSA, mais qui arrive quand même à maintenir une activité. Alors, l'activité, la rémunération des auteurs, elle se fait par la vente des livres, mais elle se fait aussi beaucoup par les animations périlittéraires, on va dire, qu'ils sont susceptibles de faire. Et nous, on encourage énormément l'ensemble des autres acteurs du livre de bien faire attention à bien les rémunérer pour des rencontres scolaires, pour des rencontres en librairie, etc. Et on a fait un certain nombre de guides d'accompagnement dans ce sens-là. On est vraiment dans le sens de la défense des auteurs, mais aussi, évidemment, de l'ensemble des professionnels du livre. En ce qui concerne les événements littéraires, ce que nous on appelle manifestations récurrentes, c'est-à-dire un festival, un salon du livre qui va revenir tous les ans, on en a à peu près 120 en région.
120
qui baissent. Il y a quand même une tendance à la baisse, on le sait, les financements publics ne sont pas à la hausse, donc ça se retrouve aussi dans les programmations. On a un peu des phares dans la région. Alors on va faire la différence entre festival littéraire et salon du livre, même si dans certains salons du livre, vous avez une programmation de rencontres littéraires assez conséquente. Mais on va dire que les phares, ça va être, en ce qui concerne les festivals littéraires, les correspondances de Manos, qui est le festival actoral à Marseille, qui est plutôt sur les écritures contemporaines. Et côté salon, on va être plutôt du côté de la fête du livre du Var et du festival du livre de Moinsartou, où là, on a une partie salon qui est prédominante, même si on a quand même des contenus de rencontres littéraires assez importants. Côté jeunesse, on a le deuxième salon du livre de jeunesse après Montreuil, qui est Grainsel à Aubagne. Voilà. Et après, on a un certain nombre de petits salons, dont certains sont de petits salons, petits festivals littéraires de grande qualité, comme la fête du livre de Manosque avec Éclat de Lire, mais voilà, des choses qui sont dans les confins, ou des structures culturelles. Je pense aux Nouvelles Hybrides à la Tour d'Aigle, qui fait en même temps des rencontres. Alors, c'est pas le format salon, format festival, mais c'est des rencontres tout au long de l'année sur l'arrière-pays, derrière Pertuis, etc., et qui font également des résidences. Du coup, ça me permet de passer à la question des résidences, puisque on est aussi une région où on a un nombre de résidences permanentes, résidences d'écrivains, résidences d'illustrateurs, de dessinateurs, résidences de traducteurs, assez important, et on a une vingtaine d'offres de structures qui font régulièrement de la résidence. Alors, de la résidence de création, où là, l'auteur va être reçu uniquement pour c'est un grand luxe pour lui, uniquement pour travailler. On ne va rien lui demander, quasiment rien, comme par exemple le Centre international des traducteurs littéraires d'Arles, qui reçoit à peu près 120 résidents à l'année, traducteurs du monde entier qui viennent travailler sur des traductions, ou le monastère de Saorge, qui vient aussi, où les écrivains viennent écrire, et puis des structures qui sont associatives ou collectivités publiques, bibliothèques ou autres, qui vont recevoir un résident à l'année et qui vont être sur un format de résidence plutôt à développement culturel ou résidence de médiation, et qui là, il va y avoir un projet, un cahier des charges en lien avec le territoire, en lien avec les publics. Donc voilà, on est aussi une forte, forte région pour ces résidences. Et juste un petit point qu'on a oublié sur les projets de l'agence, dont un qui est un projet qui nous anime aussi pas mal depuis un an et demi, l'État et la région, mais aussi les services interrégionaux des services pénitentiaires et la protection judiciaire de la jeunesse nous ont confié une mission assez importante de développement de la lecture en milieu carcéral, avec un volet sur la modernisation des bibliothèques de prison et un autre volet plus culturel où là on met en, alors c'est pas en résidence, mais des couples, des binômes écrivains et traducteurs littéraires pour des collectes d'histoires vraies auprès des détenus dans la langue originale. Voilà. Donc ça, c'est aussi un projet qui nous tient à cœur, et notre premier livret de collecte d'histoires vient de... Voilà.
Alors, je vais vous poser une question claire pour marquer une pause. Quelle est la musique que vous aimeriez entendre ?
Ah, alors, c'est un morceau que j'aime beaucoup en ce moment, qui s'appelle Catchy, de Nick Waterhouse.
Voilà. D'abord, quel est votre diagnostic à propos de la région PACA par rapport au reste de la France, et le diagnostic actuel en 2017? Quels sont vos projets et quels sont ceux sur lesquels vous souhaitez insister? J'aimerais plus précisément savoir, mais pas seulement, ce que vous faites pour les jeunes et qu'est-ce que vous envisagez dans ce domaine intergénérationnel, qui est quand même un enjeu majeur.
Je crois qu'on ne peut pas parler d'exception régionale. C'est-à-dire qu'il faut voir le livre comme un ensemble, et cet ensemble se tient au niveau national. C'est-à-dire qu'on a un cadre juridique avec la loi Langue de 1980, avec d'autres cadres de loi qui sont venus l'enrichir depuis, qui fait que, au final, on ne peut pas parler, lorsqu'on parle de librairie, lorsqu'on parle de maison d'édition, d'exception régionale. Effectivement, on a des livres qui s'écrivent sur le territoire, on a des acteurs qui évoluent dans un territoire, mais si ce n'est l'impact, j'ai envie de dire, du loyer qui est très cher pour nos libraires, et du fait de la localisation géographique, parce que le Sud et les loyers dans le Sud sont peut-être plus excessifs que dans d'autres cadres, j'ai envie de dire que ces problématiques sont plus nationales qu'elles ne sont régionales. Problématique pour la librairie, si on prend ce premier point, c'est d'abord de réussir à exister par rapport aux grands groupes. Parlons un peu et rapidement et très succinctement d'Amazon, mais qui représente, et cette vente en ligne qui représente quand même un enjeu important. Aujourd'hui, ça représente 18% des ventes sur le territoire national, et c'est autant de lecteurs qui ne se rendent pas en librairie. Et c'est délicat d'imaginer qu'au final, à 18%, on délaisse ces commerces de proximité, parce que c'est quelque chose qui revient quand même de façon assez régulière dans le débat public et dans le débat national, c'est de favoriser cette diversité culturelle. Et pour favoriser la diversité culturelle et faire en sorte qu'elle existe encore, c'est un acte citoyen, mais qui est simplement parfois de se déplacer dans un centre-ville. On voit de nombreuses études qui paraissent sur le dépeuplement, on va dire, des centres-villes, la perte de commerce, qu'on estime à peu près à 15% sur les cinq dernières années, 15% des commerces de centre-ville qui auraient disparu au profit des grandes surfaces culturelles et des ventes en ligne. Donc ça, je crois que c'est un vrai enjeu de revenir un peu sur ces modes de consommation locale et de se rendre et de se déplacer en librairie. La loi sur le prix unique du livre dit une chose très simple, le prix du livre est le même partout. Mais c'est vrai que ça brouille le débat, donc ne pas se laisser influencer un peu par ces forces de communication. Après, il y a cette question du numérique, de cette dématérialisation des supports. Aujourd'hui, ça va représenter à peu près 5% du chiffre d'affaires global de l'édition. C'est faible, mais c'est une problématique qu'on doit adapter. Je dis pas que les libraires ou les éditeurs doivent aller forcément vers le numérique. C'est pas forcément une solution et c'est pas forcément quelque chose de bien. Les derniers chiffres sur les marchés américains montrent qu'il y a une baisse de l'achat de livres numériques de l'ordre de 7%. Ce sont des chiffres qui sont parus avant-hier. Donc ça signifie que le livre numérique recule, et l'offre dématérialisée n'est pas forcément quelque chose qui est important, mais ce qui est plus important, c'est comment utiliser les nouveaux outils numériques qui sont proposés, pas forcément le livre dématérialisé, mais ces outils numériques qui peuvent permettre d'animer une vitrine, qui peuvent permettre de faire vivre un lieu, un commerce. Et j'ai envie de dire que pour les éditeurs, l'un des points qui est très important aujourd'hui, et l'un des enjeux, c'est un enjeu de visibilité. C'est l'enjeu d'être visible dans des points de vente qui parfois ont tendance à privilégier uniquement les grands acteurs, parce qu'ils se disent que ce sont des ventes faciles, avec des rotations qui sont faciles à atteindre, alors qu'à côté de ça, on a une diversité très forte d'offres de produits, et je pense que c'est très intéressant aussi de pouvoir valoriser ces petites structures éditoriales. Et l'autre point, un grand facteur, c'est aussi comment amener les jeunes à la lecture, parce qu'aujourd'hui, on parle des digital natives, de ces jeunes qui ne connaissent que pas le numérique, qui respirent numérique, et c'est vrai que l'un des objectifs de l'agence, mais je pense que Claire va le développer un peu plus, c'est justement de ramener ces jeunes à la lecture et d'avoir cette action auprès des jeunes publics.
La région, il y a un certain nombre d'années maintenant, a souhaité mettre en place, la région, le conseil régional a souhaité donner la possibilité à l'agence de mettre en place une grande opération pour favoriser la lecture dans les lycées et dans les CFA, donc dans les lycées professionnels et généraux et dans les CFA. Donc on a deux personnes quand même à l'agence qui travaillent à temps plein sur ce prix des lycéens et apprentis de la région PACA, et qui est un prix qui est vraiment, qui a été construit de manière extrêmement précieuse, parce que c'est en même temps un outil de développement de la lecture et en même temps un outil de dynamisation du réseau des professionnels du livre. C'est-à-dire qu'il est composé de la manière suivante: chaque lycée, classe d'un lycée qui pose sa candidature auprès de la région pour faire partie du prix littéraire des lycéens et apprentis, il constitue lui-même l'ensemble de ces trios. Il y a à peu près entre 25 et 30 lycées chaque année qui font partie de ce prix. L'ensemble de ces trios, l'année qui précède, sélectionne des livres. Ce n'est pas l'agence qui sélectionne les livres, sélectionne des livres dans une sélection adulte et dans une sélection internationale. C'est-à-dire qu'on ne se limite pas. On va avoir la possibilité de recevoir, par exemple, dans l'année, un Argentin, un Coréen, un Italien, un Français, que ce soit. Alors, il y a deux catégories, roman et bande dessinée. Et en bande dessinée, on est plutôt sur la bande dessinée indépendante. Et par ailleurs, ils vont avoir aussi une quinzaine d'heures de pratiques artistiques qui vont être financées autour de la sélection. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des artistes qui vont venir en disant, ben voilà, les professeurs vont dire, cette année, on va travailler la sélection avec un chorégraphe, on va travailler la sélection avec un vidéaste. Et ils vont produire une création artistique qu'ils vont montrer à un moment donné, qui sera la grande restitution, le moment de la remise du prix, où un écrivain. Et là, on se retrouve dans les forums et dans les remises de prix face à quelque chose qui est assez précieux et extraordinaire, qui nous met à chaque fois des frissons et qui nous fait dire qu'on sait pourquoi on travaille. Et je le dis d'autant plus facilement que Élise de Blaise et Marina, qui sont sur ce projet, que nous, on accompagne comme ça un petit peu de loin, c'est très précieux pour nous de voir ça. C'est comment on peut avoir une salle de 300, 400, 500 gamins qui hurlent en applaudissant un écrivain ou un dessinateur de bande dessinée comme il le ferait pour une star de rock. Et là, on se dit quand même, dans cette année où ils ont rencontré, où ils ont travaillé des textes, où ils ont touché des textes littéraires vers lesquels ils ne seraient pas allés. On voit des gamins qui n'avaient jamais lu un roman et qui nous disent « Mais je ne savais pas que c'était ça la littérature dans des CFA. » Et là, on se dit « Ben voilà, là on ne travaille pas pour rien. »
Merci Claire, il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais encore une fois, je pense que, chers auditeurs, l'Agence régionale du livre répondra quasiment à toutes vos questions. Encore une fois, regardez le site, venez pas forcément à Aix, en tout cas pour les rencontrer, parce qu'ils ont énormément de travail. Je voudrais vous remercier d'abord de votre accueil, de tout ce que vous nous avez dit. Cette émission est entendue en dehors de la région PACA, directement, mais aussi après sur le site. Elle est entendue dans le monde entier. Donc je vais redemander à Claire de nous redire les références du site.
Alors www.livre-paca.org.
Merci Olivier, merci Claire. Si j'avais une phrase à retenir au terme de cet entretien, je dirais tout simplement que le livre est un écrit qui rejoint le cri culturel, en réalité interculturel, sans lequel la vie n'a pas de souffle. Donc vous avez un très bel avenir. Merci. Voilà, cet entretien avec Claire et Olivier, encore une fois, que je remercie. L'Agence régionale du livre est un instrument, encore une fois, extraordinaire, non seulement pour les professionnels, mais pour chacun d'entre nous, citoyens, qui voulons connaître la situation du livre, de l'écrit et de toutes les activités périphériques dans la région PACA. Vous savez, cette région PACA, quand on y habite, on la connaît plus ou moins. Il y a trois sous-ensembles. Il y a la côte d'Azur avec le Var et les Alpes-Maritimes. Il y a la Provence avec les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. Et puis il y a les deux départements des Alpes, en l'occurrence. Et je voudrais savoir combien d'auditeurs ce soir connaissent bien leur région en se baladant comme ça et en découvrant qu'il a un libraire dans une petite commune, je pense, à Malocène, où il y a une femme qui fait un travail extraordinaire, ou tout simplement à Aix, où parfois il y a des expositions fabuleuses, mais il y a aussi d'excellentes librairies, comme généralement proche de chez nous. Vous voyez, toute cette évolution du livre est absolument fantastique. Alors, encore une fois, allez voir le site Agence régionale du livre pour les connaître, les apprécier, etc. Et puis, je vous donne rendez-vous donc lundi avec Gaston Bachelard, l'autodidacte, le philosophe, l'homme si humain. Si vous le connaissez, je pense que vous aurez beaucoup de plaisir à le retrouver, car nous l'écouterons. Nous disposons d'archives sonores absolument fabuleuses. Et puis Gilles nous parlera de sa dimension plutôt poétique. Et puis encore une fois, mardi soir, nous naviguerons dans le Pays de Grasse historique, 43 communes autour de Grasse, qui ont une vie absolument extraordinaire. Et où aussi il se passe des choses. Je vous parlerai de deux petits salons que vous connaissez peut-être pas, mais qui ont plein d'avenir à côté du Festival de Montsartou, dont Claire nous a parlé tout à l'heure. Alors, pour vous donner un tout petit goût de Bachelard, avant de terminer cette émission, cette citation de Bachelard, je pense qu'elle est bienvenue à propos de l'écrit et du livre. Bachelard écrit « On n'est jamais pressé quand on donne aux mots leur être poétique. » Alors, si vous êtes pressé, dégustez le mot poétique, y compris en prenant un apéritif. Vous serez moins pressé, moins empressé, et vous dégusterez davantage la vie. Alors revenons à la fin de cette émission, Agence régionale du livre, Aix-en-Provence, et puis nous allons prendre le temps maintenant, pendant 3 minutes pratiquement, largement, d'écouter cette musique que Claire nous a proposée d'écouter, que nous allons écouter ensemble, car Claire réécoute cette émission, Catchy. Alors écoutons Catchy ensemble. Bonsoir et à lundi. Do up a do up shoe, be do be do up a do up a do up shoe, be do be do up. Those